Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à Metz dans les studios de France Bleu Lorraine. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Voilà, exact. Alors voici l'agence en douane qui était contiguë au restaurant, n'est-ce pas, et qui faisait donc tout ce qui est papier de dédouanement.
Ça c'est maintenant ici ou c'est
voilà,
ça,
c'est maintenant on est ici, voilà.
Et ça c'est le poste de douane
français,
qui est là.
Oui, voilà.
Et nous on est, ça c'est notre maison là.
Voilà.
Ça c'est le café voilà, hôtel de la frontière.
Voilà. Et là c'était le poste de douane luxembourgeois. Voilà. Et là, il y avait une trentaine de douaniers qui opéraient. Hein. Et bon, il faut se dire qu'il y avait des différences de prix sur les cigarettes, l'alcool, les produits pétroliers.
Bon, déjà, dans ce temps-là, il y avait les contrôles. On avait encore les vieilles. Ici, on voit, on avait les deux pompes à essence.
Oui.
Et à chaque fois
que les clients
prenaient un litre, ça faisait bing, bing. Et les douaniers français, ils étaient en haut à l'écoute.
Oui.
Ils entendaient les bing-bing.
Oui.
Et quand la voiture, elle passait, ils demandaient à déclarer et ainsi de suite.
Voilà. Et après, ils se sont un peu améliorés au point de vue système. Ils donnaient des tickets. Donc le réservoir était divisé en quatre. C'était le quart, la moitié, les trois quarts et le plein. Et on avait droit à un quart. Et alors la cerise sur le gâteau, hein, c'est qu'il y avait des petits malins qui, à l'époque, mettaient un aimant derrière le tableau de bord pour que la jauge l'indique toujours le quart, alors que, n'est-ce pas, il pouvait sortir avec le plein. Ça, c'était des astuces. Et puis, il y avait d'énormes écarts de prix. Tout de suite à la Libération, bon, le café, les bas nylons, qui n'existaient pas à l'époque en France, existaient au Luxembourg. Alors, je peux vous dire qu'il y a des coffres de voitures qui étaient abondamment garnis.
À l'ombre de l'ogre germanique, le Luxembourg est sans doute notre cousin francophone le plus méconnu. Bien que cœur géographique de l'Europe et membre fondateur de la CEE, il est même souvent ignoré quand il n'est pas réduit à une image d'opérette d'Offenbach, avec son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, son épouse et leurs cinq enfants, ou à ses banquiers machiavéliques aux mains trop propres, à force de blanchir de l'argent sale. Le plus impénétrable des pays européens, le Luxembourg, est pourtant le plus ouvert quand on sait que près de la moitié de sa population est d'origine étrangère et que chaque jour, ses voisins wallons, sarrois et lorrains viennent y chercher de généreux salaires. Il arrive aussi que des luxembourgeois fassent le trajet inverse. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir François Bauch.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Culture dans les studios de France Bleu Lorraine Nord. Vous êtes le ministre luxembourgeois des Transports, donc permettez-moi de vous demander comment vous êtes venu jusqu'ici.
Je suis venu en voiture parce que, évidemment, avec mon agenda chargé, c'était impossible de venir en train. Mais j'aurais préféré de venir en train parce que les connexions, en fait, sont très bonnes jusqu'à Metz.
Vous avez mis combien de temps pour venir en voiture alors ?
À peu près 45 minutes à 50 minutes. J'ai bien respecté évidemment les limitations de vitesse. De toute façon, en France, il faut les respecter parce qu'il y a beaucoup de radars et c'est bien, je trouve.
Bon, François Bauch, vous êtes venu tout ministre des Transports que vous êtes, donc avec votre voiture personnelle. Vu de France, c'est assez surprenant. Chez nous, les déplacements des ministres sont escortés au minimum de gendarmes, au mieux de la garde républicaine. Au Luxembourg, c'est simple.
Chez nous, c'est simple, je trouve ça très bien. Il faut dire aussi que jusqu'à présent, on n'a jamais eu trop de problèmes de sécurité par rapport aux membres du gouvernement. Ça nous permet d'être très accessibles pour la population et ça nous permet aussi d'avoir un contact très, très proche par rapport à nos citoyens. Je trouve ça très bien.
Finalement, il y a moins de pompe dans une monarchie comme la vôtre que dans notre République où les salons de l'Élysée sont encore chargés de pompe toute monarchique.
Oui, vous savez qu'en France, on a établi un État républicain et laïque. Je trouve ça très bien. Mais par contre, l'État républicain a un peu trop repris l'ancien fonctionnement de la monarchie. Je trouve qu'il faudrait un peu repenser tout ça.
Bon, tout est sans doute plus simple à l'échelle d'un pays comme le vôtre, grand comme un petit département français, 2600 km², un peu plus de 550 000 habitants. Comme dans un tout petit pays, tout le monde se connaît chez vous, François Bauch. Est-ce que tout le monde connaît au moins une personne qui connaît le ministre des Transports ?
Au Luxembourg, c'est très facile en tant que ministre. Vous êtes très vite connu par tout le monde, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça met aussi beaucoup de pression sur les ministres, parce que vu que vous êtes très très proche de la population, les concitoyens peuvent très vite venir chez vous pour faire des réclamations, pour rouspéter, c'est-à-dire vous avez une charge de travail, la même charge de travail qu'un ministre à l'étranger, mais en plus vous avez une charge de travail supplémentaire parce que vous êtes très proche de la population. Mais comme j'ai dit, ça nous permet quand même aussi d'avoir une certaine stabilité. La stabilité politique qui existe au Luxembourg, c'est beaucoup le résultat de cet aspect consensuel qu'on a dans la politique au Luxembourg.
Je n'ai pas rappelé votre parcours politique, François Bauch, donc ministre luxembourgeois des Transports et du Développement Durable. Le premier ministre qu'on reçoit pour nous sur la route. Vous avez aussi été maire adjoint de Luxembourg-Ville de 2005 à 2013, député au Parlement depuis 1989 pour les Verts. François Bauch, quand vous venez en France, c'est pourquoi, à part répondre à l'invitation de la radio publique française ?
D'abord, j'aime beaucoup la France et surtout j'aime beaucoup Paris parce que c'est une de mes villes préférées. J'aime la culture française, j'aime manger en France. Non, en général, la France est un pays qui vraiment m'attire beaucoup. C'est pour ça que je me retrouve souvent en France, surtout à Paris, je dirais, parce que au moins plusieurs fois, plusieurs week-ends par année, je vais à Paris parce que j'aime beaucoup Paris.
Et quand vous venez en Lorraine, est-ce que vous êtes capable de dire à quel moment précis vous passez en France ?
Oui, parce que bon, la frontière, elle a disparu, mais quand même, je me rappelle où était le poste frontière avant. Ça, c'est une
chose. Vous l'avez connu ?
Je l'ai connu. Mais d'un autre côté, c'est différent quand même en France. Déjà, les règles sont un peu différentes au niveau de la circulation. Le comportement, c'est un peu différent quand même. On remarque qu'on n'est plus au Luxembourg.
Il n'y a plus grand-chose pour matérialiser cette frontière, en tout cas.
Non, et ça, je trouve très bien, parce que le Luxembourg a... C'est un des pays qui a énormément profité, évidemment, qui ne pourrait plus vivre avec toutes ses frontières. Je trouve, en général, les gens ne se rendent pas compte en Europe quel avantage on a tiré en général ensemble, tous ensemble, par la disparition des frontières et de l'introduction de l'espace Schengen.
François Bauch, nous-mêmes avec Yvon, nous sommes allés à la frontière pour ça, pour cette émission. Nous avons même dormi à l'hôtel de la frontière. Et pour vous faire une confidence, mais j'ai toujours pas compris si on a dormi en France ou au Luxembourg, tellement on voit pas de différence entre les deux. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de stations-service. C'est impressionnant, Willy Seibert, le nombre de stations-service qu'il y a ici.
Bien, tout s'explique. Des écarts de prix tels qu'on connaît expliquent que c'est un endroit stratégique aussi bien pour les frontaliers français que pour les frontaliers allemands, que pour les frontaliers belges, et y compris surtout les transports internationaux qui viennent ici, qui descendent dans le sud de l'Europe. Certains véhicules ont deux réservoirs qui font 1200 litres, ce qui leur permet d'arriver jusqu'en Espagne sans s'arrêter pour faire du carburant en France, par exemple. Donc c'est relativement intéressant.
D'où cet énorme camion devant nous qui est là depuis un bon moment.
D'où cet énorme camion, voilà, qui est en train de faire le plein et puis qui va s'en aller vers le sud, emmener des marchandises et puis qui va nous ramener des oranges au retour, par exemple. Hein, voilà.
On est au cœur d'un réseau routier qui est en général quand même assez bondé, paraît-il.
Bien évidemment. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 83 000 de nos compatriotes qui vont tous les jours travailler au Luxembourg et qui, dans une grande proportion, prennent quand même leur voiture. Parce que les transports en commun ont un avantage, mais un désavantage à la fois. C'est-à-dire que le train arrive en gare de Luxembourg, mais tout le monde ne travaille pas à proximité de la gare. Donc il faut reprendre un transport quel qu'il soit pour aller à son lieu de travail, ce qui explique que... la voiture garde beaucoup de charme. Et puis, bon, autre chose,
c'est que dans la ville de Luxembourg, aux abords immédiats de la ville de Luxembourg, il y a quatre énormes park and ride, c'est-à-dire des parkings dissuasifs, qui sont gratuits en plus, et qui permettent aux gens de déposer leur voiture pendant toute la journée et de la récupérer le soir sans bourse déliée, quoi.
Oui, on a vu un parking à deux pas d'ici, de covoiturage.
Un parking éco-voiturage qui est gratuit, qui a été d'ailleurs augmenté de capacité à trois reprises, qui tourne aux alentours de 450 par place de parking actuellement, et qui est desservi par un réseau de bus qui l'amène directement à la capitale.
Alors vous, Willy Seivert, vous avez été pendant des années, dirais-je des décennies, oui, maire d'une commune lorraine, limitrophe du Luxembourg. Voilà. Roussy.
Roussy, voilà. Donc j'ai été maire effectivement durant 25 ans. Mais j'étais parallèlement à cela vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Et j'étais à l'origine de la création d'une entité qui s'appelle ENCOM, qui signifie tout simplement Entente communale, et qui regroupait toutes les localités luxembourgeoises qui bordent le territoire français. Ce qui fait qu'à intervalles réguliers, nous nous réunissions pour discuter de nos problèmes communs, dont le principal était bien évidemment les tracas de circulation. Voilà. Et ça nous a beaucoup aidés, et en même temps, ça nous a beaucoup rapprochés. Enfin, je dirais que personnellement, j'ai ce que j'appelle un gros avantage. Enfin, je dirais que publiquement, j'en ai deux. Le premier, ben, je parle parfaitement le luxembourgeois.
Le plat.
Le luxembourgeois plat. Heilei, kukulei, das alles andere. Et puis d'un autre côté, je suis binational. Je suis binational. Voilà, alors j'ai la nationalité luxembourgeoise également.
À part la langue qui reste dans certains cas une barrière, est-ce que vous estimez que ses voisins, les Lorrains et les Luxembourgeois, se connaissent bien ?
Eh bien écoutez, je vous répondrai de deux manières. Tout d'abord, l'un a besoin de l'autre, et je m'explique. J'ai eu l'occasion de dire à monsieur le préfet de la région Lorraine que si le Luxembourg n'existait pas, la Lorraine s'appellerait la Lozère. Oui, tout simplement parce que bon, le taux de chômage étant ce qu'il est, on serait confronté à de grosses difficultés. Et les Luxembourgeois ont violemment besoin de cette main-d'œuvre pour faire face à leur expansion constante. Voilà. Donc, si vous voulez, on est largement fait pour s'entendre et on n'a pas le choix parce que c'est un choix idéologique, économique et affectif.
Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, j'allais dire des paysages luxembourgeois, mais bon, pour l'instant, on est vraiment au milieu des stations à essence. Mais progressivement, en montant vers le nord, en montant vers la capitale Luxembourg, comment sont les paysages ? On connaît peu ce pays voisin.
Le Luxembourg, c'est un peu, on pourrait le comparer géographiquement avec le département des Vosges. Alors, vous avez d'abord la vallée de la Moselle, qui est bordée de vignobles, qui est absolument charmante, qui s'en va d'une localité que tout le monde connaît, c'est-à-dire Schengen, jusqu'aux abords de Trèves, à Wasserbillig très exactement. Et puis vous avez le nord du Luxembourg, qui a la particularité d'avoir des stations de ski. Voilà. Et au milieu, bah, vous avez la ville de Luxembourg, et puis tout le bassin, enfin l'ex-bassin de la métropole du Fer.
Bon, Willy Seivert, on voit tous ces Français franchir la frontière pour aller au Luxembourg et vice-versa, mais est-ce que le couple grand-ducal rend parfois une petite visite à ses voisins ?
Eh bien, écoutez, paradoxalement, à titre strictement officiel, je vous ai parlé tout à l'heure de septembre 2006, cela faisait exactement depuis 1923 que les souverains luxembourgeois n'étaient pas venus en visite officielle à Thionville. Donc j'estime que c'était un grand hommage et un grand honneur que de les accueillir.
En 2006, ils sont venus inaugurer la maison du Luxembourg.
Ils sont venus inaugurer dans le cadre d'une visite officielle, puis la cerise sur le gâteau. Ils se sont arrêtés dans ma modeste localité durant 3 heures. Et c'est, pour moi, c'était vraiment l'apothéose. Et si Dieu le veut, et nous avons mis des chances de notre côté, peut-être qu'au mois de juin prochain, le couple grand-ducal reviendra, parce que Madame la députée maire de Thionville, Anne Gromersch, a décrété une semaine franco-luxembourgeoise qui commencera à une date historique, le 18 juin, et se terminera le 23 juin, qui coïncide avec la fête nationale du Luxembourg. We'll be right back.
Sur la route du Luxembourg, en passant par la Lorraine, notre invité ce soir est le ministre luxembourgeois des Transports et du Développement Durable, François Bauch, ici dans les studios de France Bleu Lorraine à Metz. Pour l'instant, François Bauch, pour l'instant, le meilleur lien entre la Lorraine et le Luxembourg, c'est la voiture ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que...
C'est une question.
Oui, je crois que déjà aujourd'hui, les transports en commun représentent une alternative... Pas encore tout à fait parfait, parce qu'on travaille encore dessus, mais on fait des investissements vraiment gigantesques au Luxembourg pour améliorer les transports en commun. C'est-à-dire, on va dédoubler la ligne de chemin de fer de Luxembourg vers la frontière française.
La dédoubler, ça veut dire quoi? Faire un étage supplémentaire?
Non, on va de 2 à 4 voies.
D'accord.
De 2 à 4 voies. Et le chantier est déjà en cours. C'est prévu, la première partie sera terminée en 2020. Et puis au Luxembourg même, c'est-à-dire dans l'agglomération de la capitale, où se trouve vraiment le grand nombre se trouve des postes de travail, se trouve dans la capitale et autour de la capitale, on installe un système de tramway, une première ligne de 16,4 km où la construction est aussi en cours, et qui va permettre d'avoir un changement, un transbordement de très très qualitatif entre le train et le tram. C'est-à-dire, vous arrivez à la gare de Luxembourg, ou la gare de... On va construire aussi encore 2-3 différentes nouvelles gares, aussi aux alentours de la capitale. Vous avez tous les 3 minutes un tram qui vous amène, peu importe, dans tous les endroits où sont concentrés vraiment les emplois dans et autour de la capitale. C'est-à-dire, moi, je crois que la seule issue de ces embouteillages, quand même à peu près gigantesques, qu'on a parfois les matins, tous les matins, sur les autoroutes, ça va beaucoup s'améliorer avec tous les investissements qu'on fait au Luxembourg au cours des prochaines années.
Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des Français qui viennent de Nancy pour venir travailler jusqu'à Luxembourg. Nancy, c'est à 120 km du Luxembourg, même pas encore de la capitale. Ils mettent combien de temps pour venir jusqu'à vous? Enfin, on peut mettre combien de temps de la frontière jusqu'à Luxembourg?
En général, ça va assez vite jusqu'à la frontière et même jusqu'à Bettembourg, ça va encore. Mais dès que vous approchez la capitale, vous venez vraiment dans ce tuyau qui vraiment... Parce que tout le monde, à la fin, sort de l'autoroute quelque part pour accéder à son emploi qui se trouve dans la capitale et autour de la capitale. Et vu qu'on a les matins 85 000 frontaliers français qui pénètrent au Luxembourg dans la capitale même, ils rejoignent non seulement les Luxembourgeois, mais par exemple aussi des dizaines de milliers d'Allemands qui viennent de la région allemande ou des Belges qui viennent de la Wallonie, de la province de Luxembourg en Belgique. C'est-à-dire, on a la capitale, par exemple, à 110 000 habitants, mais pendant la journée, vous avez 250 000 personnes dans la capitale. C'est-à-dire qu'il y a plus de navetteurs frontaliers qui accèdent à des emplois dans la journée qu'il y a d'habitants. Et c'est ça qui pose le problème. Et la seule solution, c'est vraiment de miser sur la multimodalité. Non pas éliminer la voiture, mais essayer de créer des parcs intra-urbains déjà aux frontières, de vraiment développer les transports en commun, que les gens puissent vraiment accéder à leur poste de travail par des modes de transport plus alternatifs, plus commodes et plus qualitatifs qu'aujourd'hui, qu'est la voiture.
85 000 frontaliers français, 100 000, je crois, à l'horizon de 2040. Ce sont les chiffres de votre institut de statistiques luxembourgeois. Est-ce qu'il y a cette seule autoroute A31 qui traverse la Moselle du nord au sud et qui va jusqu'à Luxembourg pour vous rejoindre? Ou est-ce qu'il y a des centaines d'autres petits passages qu'on peut prendre?
Il y a aussi beaucoup d'autres passages. Par exemple, si vous prenez la frontière de Frisange, vous êtes sur la route nationale qui est beaucoup fréquentée aussi, évidemment, le matin. C'est un autre passage. C'est-à-dire, il y a l'autoroute au Luxembourg, l'A3 ou l'A31 en France, vraiment où il y a le plus de passages, mais il y a beaucoup de routes nationales, mais qui sont aussi surchargées, c'est-à-dire. Et c'est ça qui pose aussi le problème de la population au Luxembourg, parce que les villes et les villages autour de la capitale ou qui vont en direction de la frontière sont congestionnés, sont beaucoup chargés le matin par le trafic. Ils souffrent, en fait. La qualité de vie souffre. Des gens souffrent dans ces villages à cause du trafic.
François Bauch, on a vu des policiers français aux alentours de la frontière. On n'a jamais vu un seul camion de policiers luxembourgeois.
ils sont présents, mais ils sont peut-être un peu discrets.
Plus malins peut-être, alors.
Non, mais c'est qu'on a introduit maintenant aussi, c'est les mêmes contrôles qu'on fait en France. Par exemple, on vient d'introduire un système de radar sur nos routes, un radar mobile, radar fixe. Mais la police, elle est présente, elle est peut-être un peu discrète, mais elle est présente.
Est-ce qu'il y a des soldats? Parce que le Luxembourg a une armée. Entre parenthèses, j'ai lu que l'armée luxembourgeoise venait de doubler ses effectifs au Mali. D'un soldat, ils sont passés à deux. Oui. Donc il y a une armée luxembourgeoise. Elle est présente sur les routes quand il s'agit, par exemple, de rétablir, quand la France veut rétablir des contrôles de police aux frontières avec le Luxembourg.
Oui, il y a eu beaucoup de contrôles à la frontière franco-luxembourgeoise et ça nous a posé un énorme problème parce que ça nous a démontré les atouts de l'espace Schengen parce que au Luxembourg, les 85 000 frontaliers français, ils sont venus une à deux heures en retard le matin à leur travail. C'est-à-dire, si vous vous imaginez maintenant la situation comme elle était il y a 30 ans, avec une frontière à Frisange, 30-40 ans, une frontière à Frisange, évidemment, aujourd'hui, ça ne pourrait plus fonctionner. C'est-à-dire, l'ouverture, en fait, qu'on a eue en Europe avec l'espace Schengen, ça a permis en grande partie aussi au Luxembourg d'avoir ce développement économique formidable que Luxembourg a connu. Hein.
Schengen, qui n'est pas un vain mot, après tout, la petite commune, toute petite commune qu'est Schengen, n'est qu'à quoi, 20 km de la frontière à peine.
Oui, c'est une ville, un village frontalier avec la frontière allemande. C'est un peu un hasard que dans ce village, sur un bateau, a été signé l'accord de Schengen. Dans le temps, c'était dans les années 90, quand l'accord a été signé, personne n'aurait imaginé vraiment l'essor de cet accord parce que personne n'a cru au moment de la signature que ça pourrait vraiment un jour représenter un accord si important pour tant de pays en Europe. Et je crois qu'avec tous les problèmes qu'on connaît, évidemment, au niveau de la sécurité, il faut jamais oublier que ça nous a apporté beaucoup de liberté en Europe aussi.
Voilà, la Lorraine déplore parfois d'être devenue le dortoir du Luxembourg, mais elle sait aussi ce qu'elle lui doit. Jacky Vojetta, on s'est installé dans les grands bureaux des anciennes aciéries de Longwy et devant la fenêtre panoramique devant laquelle nous nous sommes assis, on voit un ouvrage d'art qui marque une première frontière. C'est cette ligne de train Paris-Cologne. Derrière les rails, il y a la Belgique et il y a le Luxembourg. On est vraiment aux confins de trois pays. La commune d'Aubange pour la Belgique, la commune de Pétange pour le Luxembourg. Et ici, à Longwy, où vous avez, pendant longtemps, travaillé.
Mon lieu de travail était dans le bassin de Longwy, mais plus précisément à Réon. Donc j'ai travaillé à peu près 8-9 ans à l'usine Coqueril, où là, on avait une usine en ligne.
Qu'est-ce que ça veut dire, une usine en ligne?
Une usine en ligne, ça veut dire qu'on avait, on amenait le minerai, et on le préparait. On avait ensuite les hauts fourneaux. Des hauts fourneaux, on sortait la fonte. De la fonte, on allait à l'aciérie. Et de l'aciérie, on allait faire des lingots pour faire le produit fini. Donc une usine en ligne, c'est vous partez du minerai et vous arrivez à un produit fini.
Et alors vous, quel était votre métier?
Moi, j'étais technicien au service automatisme. Et nous, moi, mon métier, c'était le dépannage sur tout ce qui était automatisation. Par exemple, le pilotage d'un haut fourneau, le pilotage d'une ligne de coulée continue, le pilotage de l'aciérie.
Ça fait plusieurs années que les convertisseurs ne crachent plus ici, que les hauts fourneaux se sont tus, que les voitures ne sont plus recouvertes de cette pellicule de chaux que vous trouviez tous les soirs en sortant du travail. Vous saviez, quand vous avez été embauché à Coqueril, vous saviez déjà que l'industrie sidérurgique était à la peine en Lorraine?
Oui, plus ou moins. Bon, nous, on y est rentré parce que, bon, on était du cru, donc on avait envie de rentrer dans la cidée. Mais à court terme, on savait qu'on allait en sortir, puisque de toute façon, tout fermait à côté. Hein. L'usine de la Chaire avait déjà fermé, l'usine de Snell était mal en point, l'usine de la nôtre était aussi mal en point. Donc c'était qu'une histoire de temps avant que ça ferme. Donc oui, on savait que tôt ou tard, tout serait fini.
Est-ce que vous imaginiez que vous pouviez avoir une planche de salut quelque part, pas très loin d'ici, du côté luxembourgeois de la frontière ?
Au départ, on n'y pensait pas trop. Le Luxembourg, nous, c'était chercher l'essence et l'alcool. C'est ça, en fin de compte. Et puis, ça s'est passé vraiment dans la foulée, quoi. On m'a proposé un emploi en France, où j'ai décliné, puisqu'il fallait que je réduise mon salaire. Et on m'a proposé un emploi au Luxembourg, où là, on m'augmentait mon salaire. Donc, j'ai franchi le pas. On avait une cellule de reclassement spécifique qui s'occupait des cas, d'essayer de reclasser les gens à droite ou à gauche. Et ils ont prospecté au Luxembourg et c'était bien pour nous.
Vous étiez nombreux à partir pour le Luxembourg ?
Ah oui, il y a pas mal de monde qui est parti au Luxembourg. Je pourrais pas vous dire combien, mais ça a été beaucoup quand même, beaucoup de gens, oui.
Comment s'est passée votre intégration là-bas quand vous êtes arrivé ? Est-ce que vous étiez de nombreux Français ? Est-ce que vous pouviez parler français ? Est-ce que vous avez dû apprendre l'allemand ou le luxembourgeois ?
Non, on n'a pas eu besoin, parce que la langue administrative au Luxembourg, c'est le français. En plus, moi, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis tombé dans la première société, Thomas & Best, la société privée où je suis tombé, c'était un directeur français. Donc il fallait juste que j'apprenne l'anglais. Comme c'était une société américaine, il fallait juste que j'apprenne l'anglais, mais le luxembourgeois n'était pas exigé. J'étais avec beaucoup de Français, il y avait beaucoup de Français, beaucoup de Belges, très peu de luxembourgeois. Donc, on n'a pas été confronté au problème de langue.
Votre salaire était beaucoup plus intéressant ?
Le double.
Le double. Tout d'un coup, vous n'étiez plus le roi du fer, mais le roi du pétrole.
Le roi du pétrole, oui, exactement, oui. Ça, c'est vrai. En plus, on habitait en France et on travaillait au Luxembourg. Donc, on n'avait pas le problème de logement ni rien. On était déjà logés. On était frontaliers, quoi, comme on dit.
Je me tourne vers vous, Jean-Paul Guilianelli. Vous connaissez très bien cette région frontalière de la Lorraine pour avoir été pendant des années proviseur dans le lycée de Longwy. Vous avez animé l'école transfrontalière de la Deuxième Chance. Est-ce que parmi vos anciens élèves, il en est beaucoup qui ont comme ça suivi une carrière professionnelle d'abord en Lorraine, peut-être dans la sidérurgie d'ailleurs, et ensuite au Grand-Duché ?
Il y a 2 mois, c'était à Thionville, dans un salon qui s'appelle le Salon à l'envers. Quelle n'a pas été ma surprise de voir une ancienne élève qui m'a dit « Monsieur Guilianelli, je suis là !» Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle a trouvé un métier intéressant au Grand-Duché. Elle s'occupe du recrutement des crèches, des personnels de crèches. Et au Grand-Duché, c'est un élément intéressant, elle va faire toute sa carrière au Grand-Duché. Donc la majorité des jeunes de cette région, tant du côté lorrain que du côté wallon, va aller vers le bassin d'emploi le plus dynamique, puisque c'est 380 000 emplois aujourd'hui pour une population de 575 000 habitants. Donc, leur espoir d'emploi, c'est le Grand-Duché du Luxembourg. Si on observe la démographie, le bassin de Longwy, au début des années 60, c'était quasiment 120 000 habitants. Au début des années 2000, la chute était colossale, c'était 78 000 habitants. Aujourd'hui, la démographie est remontée, c'est 87 000 habitants, c'est pas énorme, mais il y a un nouvel espoir. Et ce nouvel espoir, c'est quoi ? C'est mes enfants trouveront un travail au Grand-Duché. Ici, on vit sous perfusion du Grand-Duché, quoi. Ici, quand vous regardez les plaques d'immatriculation, vous voyez du 41, vous voyez du 44, vous voyez du 69, vous voyez du 31. On a même des gens qui viennent de Toulouse, qui viennent travailler au Grand-Duché. Et qui, pour des raisons d'économie au niveau de l'immobilier, s'installent dans le bassin de Longwy ou même dans la région de Thionville.
François Bausch, le Luxembourg a pendant
des années, dans les années 80-90, a absorbé une grande partie du travail ouvrier et salarié des usines Lorraine, usines de sidérurgie qui fermaient les unes après les autres, jusqu'à ce que la sidérurgie luxembourgeoise aussi ne commence à péricliter quelque peu. Aujourd'hui, 2016, quand on dit que le Luxembourg absorbe la main-d'œuvre Lorraine, le mot main-d'œuvre est impropre. On est sur des postes de haute qualification.
Aujourd'hui, de plus en plus, je dirais, il y a 20 ans, ce n'était pas encore le cas. Parce qu'il faut voir, au Luxembourg, on a deux secteurs, même trois secteurs qui profitent beaucoup de la main-d'œuvre de la Lorraine, de la France. C'est le secteur horeca, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration. C'est le secteur du commerce. Il y a beaucoup de gens dans le commerce, qui travaillent dans le commerce, sont originaires français. Et évidemment, maintenant, la place financière, le secteur des services. Bon, les cols blancs, vous les trouvez évidemment surtout dans ce secteur, mais c'est un mélange. On est en train de développer aussi un secteur ICT, informatique, très important. Là, c'est plutôt la main-d'œuvre très hautement qualifiée. Mais comme j'ai dit, le commerce ou le secteur de la restauration hôtelière, c'est aussi aujourd'hui, de toute façon, il faut être qualifié pour accéder à un poste. Mais je dirais, c'est plutôt des métiers moins qualifiés. Je vous donne un exemple. Il y a prochainement un nouveau magasin Auchan qui va ouvrir au Luxembourg, à la périphérie de la capitale. Ce sera le plus grand supermarché, hypermarché du pays. Aux alentours de 2000 personnes vont y travailler, et probablement 80-90% des personnes qui vont travailler dans ce magasin seront des frontaliers, surtout des frontaliers français. Évidemment, ça représente un réservoir d'emploi pour la région française qui est Lorraine, qui est importante. Et je crois que c'est très facile pour les Français d'accéder effectivement au marché du travail luxembourgeois, vu que la langue administrative, elle est le français. Tous les Luxembourgeois parlent le français, c'est-à-dire il y a une convivialité qui existe très vite entre les francophones, les Français et les Luxembourgeois. Ça se passe très très bien, ça c'est un point très important.
Il y a quand même des Luxembourgeois qui commencent à se plaindre que les Français ne fassent aucun effort pour parler luxembourgeois, et notamment, paraît-il, quand on entre dans un magasin au Luxembourg, parfois les vendeurs demandent de parler français. Les vendeurs français demandent de parler français.
C'est vrai, mais c'est pas la faute des frontaliers, mais c'est la faute des employeurs, parce que je crois que les employeurs doivent faire des efforts pour vraiment donner la possibilité à leurs salariés d'apprendre le luxembourgeois. Il y en a qui le font. Par exemple, il y a une autre chaîne de supermarchés au Luxembourg qui a une certaine tradition de former leurs gens en luxembourgeois, et qu'il y a beaucoup de frontaliers aussi qui travaillent dans cette chaîne, mais qui reçoivent des cours en luxembourgeois pendant leur... c'est une partie de leur formation. Et c'est devenu un atout de cette chaîne aussi pour dire, dans nos magasins, tout le monde parle aussi le luxembourgeois. Mais c'est à partir de l'employeur qui doit donner cette possibilité à ses salariés. Et d'un autre côté, l'État luxembourgeois aussi doit faire des efforts. C'est pas parce que moi, je crois que le Luxembourg est content que cette réserve de main-d'œuvre est là. C'est parce que ça nous a permis ce développement économique. Ça nous a permis vraiment d'avoir cette richesse. Et alors, c'est à l'État luxembourgeois de faire des efforts pour offrir des cours en luxembourgeois, évidemment aussi aux frontaliers.
Quand est-ce que l'appareil de formation luxembourgeois pourra fournir, entre guillemets, en poste, en main-d'œuvre qualifiée, en main-d'œuvre très qualifiée, les entreprises luxembourgeoises? En tout cas, vous avez une université au Luxembourg depuis quelques années qui a fait à un moment très peur aussi à l'université de Nancy, qui a pu au départ y voir une concurrence, puis finalement qui a choisi de jouer cause commune. Vous avez combien d'étudiants qui forment à quel diplôme?
On a au Luxembourg un degré de formation assez élevé, c'est vrai. Mais d'un autre côté, par exemple, la création de l'université, c'était devenu une nécessité parce que le Luxembourg doit diversifier son économie. Pour diversifier l'économie, il faut évidemment investir dans l'université, dans la recherche. Et moi, je vois ça pas en tant que concurrence par rapport à l'université de Nancy ou Metz ou d'autres universités dans la grande région. Parce que je crois que aujourd'hui, le Luxembourg est le moteur économique de la grande région que représente non seulement la Lorraine avec le Luxembourg, mais aussi la Sarre, par exemple, ou la province de Luxembourg en Belgique. Et il faut chercher des synergies avec ces régions. La même chose, on peut le faire avec les friches industrielles, par exemple. Moi, je déplore toujours qu'on a développé maintenant les friches à Belleval, juste à la frontière française.
Et Belleval, de l'autre côté, oui, on peut la décrire. C'est une de ces villes nouvelles qui.
C'est une ville nouvelle avec l'université qui a été incluse dans ce site. Et de l'autre côté, juste de l'autre côté de la frontière, on a encore une fois la même capacité de friches industrielles du côté français. Alors moi, je crois qu'il faudrait chercher des synergies avec la France pour développer aussi, de l'autre côté de la frontière, ces friches industrielles.
Mais sauf que les entreprises françaises, elles disent qu'elles préfèrent vraiment s'installer juste de l'autre côté de la frontière, côté luxembourgeois, parce que les charges sociales et la politique fiscale est plus avantageuse pour eux. Donc les Lorrains, parfois, se disent, mais en fait, on n'a plus personne chez nous, tout le monde fait quelques mètres supplémentaires pour s'installer au Grand-Duché.
C'est vrai, c'est une question de sécurité sociale et de fiscalité, mais par exemple, moi je suis aussi ministre de l'aménagement du territoire, et dans un certain moment, on a discuté pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de créer des zones transfrontalières où on essaye un peu d'harmoniser en fait la sécurité sociale et la fiscalité. Et évidemment, on essaye de choisir la fiscalité et la sécurité sociale qui est la plus favorable comme point de départ, qui est la luxembourgeoise. Mais il faudrait peut-être un jour développer un projet pilote dans ce sens, parce que vu que les frontières ont disparu en Europe, je crois qu'il faudra voir à l'avenir l'Europe en une entité de région qui peuvent se développer en tant que région. Ça peut toujours, la France et la Lorraine gardera toujours sa culture française, lorraine, qui est typique pour cette région, comme le Luxembourg, la sienne. Mais ça veut dire qu'en fait, quand même, la région travaille et joue et fait des interchanges ensemble, aussi au niveau culturel. Et je crois qu'on pourrait choisir un jour une friche industrielle comme celle à Belleval pour développer un projet pilote dans ce sens.
Est-ce que vous sentez parfois les Lorrains jaloux ? Il paraît que certaines collectivités locales ont longtemps hésité à financer les routes qui mènent jusqu'au Luxembourg.
Oui, mais je comprends.
Parce qu'il y a eu un revirement de situation,
oui,
quand même.
Je comprends. Je ne veux pas dire même jalousie. C'est déprimant de voir sa région, évidemment, être en déclin. De l'autre côté, juste à quelques kilomètres, une région qui est florissante, qui se développe très bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, j'ai en tant que ministre des très bonnes relations avec les régions frontalières en France, avec les villes même. J'ai maintenant créé un groupe de travail, par exemple, avec Madame Gromerche, la maire de Thionville, pour essayer de voir ensemble comment on peut développer la mobilité. Par exemple, nous, on finance, en tant que luxembourgeois, en tant qu'État luxembourgeois, les lignes de bus directes vers Thionville ou dans la région thionvilloise. Et la ville de Thionville essaye de financer des park and ride aux alentours de Thionville. On peut avoir des coopérations par lesquelles les deux côtés peuvent faire pour tirer profit. Hein. Je crois qu'on a dépassé le stade vraiment de la jalousie.
Sergio Ferreira, l'association dont vous êtes le porte-parole, l'ASTI, ici à Luxembourg, est un acronyme, l'acronyme de l'association de soutien aux travailleurs immigrés. Mais de quels immigrés parle-t-on ?
Ici, on parle tout le monde, si on peut le dire comme ça. On s'occupe aussi bien des questions qui ont à voir avec les communautaires, les personnes de pays tiers, les réfugiés ou un sans-papier ou même un luxembourgeois qui peut avoir un souci quelconque au niveau légal, et nous on est là pour soutenir tout le monde. Mais il y a une situation qui n'est pas exclusive du Luxembourg, la Suisse, on a des expériences semblables, c'est l'afflux journalier des travailleurs frontaliers. Et là on a à peu près 170 000 qui viennent tous les jours à Luxembourg. Sans l'apport de ces travailleurs, l'économie luxembourgeoise ne pourrait pas marcher. Sans l'apport des travailleurs étrangers, les caisses de pension ne pourraient pas fonctionner non plus. Donc, le Luxembourg sans les étrangers, ce serait un pays qui ne fonctionnerait pas du tout.
comment le Luxembourg s'est positionné dans ce qu'on a appelé la crise des migrants en Europe? Est-ce que, là encore, elle a fait montre d'ouverture et de largesse?
Donc, la réponse sur le terrain spécifique du Luxembourg, elle n'est pas si spécifique que ça. Parce qu'il y a des règles européennes qu'on doit de toute façon respecter. La réponse politique, elle a été par contre assez généreuse, je dois dire, et heureuse coïncidence, c'était le Luxembourg qui avait la présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Union, pendant les 6 derniers mois de l'année dernière. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas un afflux massif de réfugiés à Luxembourg. Il y en a eu 2500 demandeurs d'asile l'année dernière. Donc c'est pas une réalité qu'on ne connaisse pas, c'est quelque chose qu'on connaît et que Luxembourg essayera et essaye au moins de gérer de la meilleure façon.
En attendant, c'est pas une destination à laquelle ces réfugiés pensent en premier.
Non, apparemment c'est pas très sexy. Il y a des raisons pour ça. L'une a à voir avec certainement les aides sociales. La deuxième raison, c'est qu'il y a une complexité aussi linguistique. Et troisième, le Luxembourg n'est pas assez aussi connu que l'Allemagne ou que la France, que sais-je. Donc fait qu'il n'y a pas une arrivée massive.
Pour autant, en 2013, vous avez dû, à l'ASTI, mener une campagne contre le racisme.
Si dans un pays où la moitié de la population n'a pas la nationalité native, si on peut le dire, si dans un pays tel n'aurait pas de problème, ce serait le paradis. Les Luxembourgeois, quelques-uns se sentent éventuellement menacés d'une présence étrangère aussi imposante. Et donc c'est pour ça que l'ASTI, avec une centaine de partenaires qui allaient des associations patronales jusqu'aux syndicats, des cultes catholiques jusqu'aux cultes musulmans, jusqu'aux agnostiques et athées. Donc vraiment, toute la société luxembourgeoise vivante était autour de cette campagne pour dire, bah, même s'il n'y a pas encore des grands problèmes, ils peuvent venir. Et donc la meilleure façon de remédier, c'est de prévenir. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que malgré cette campagne, il y a de plus en plus d'actes racistes et il y a même une certaine hiérarchie, si on peut dire comme ça. Donc les Luxembourgeois se plaignent des étrangers résidents. Les résidents se plaignent des frontaliers. Et les frontaliers se plaignent chez eux des autres étrangers. Donc on a des phénomènes, par exemple, dans des régions limitrophes de Lorraine, des communes où on sait qu'il y a des gens qui travaillent à Luxembourg très majoritairement, le Front National, il est quand même le parti qui est le plus voté. Donc ça, je trouve un peu schizophrénique, pour ne pas dire éventuellement d'autres choses. Mais cette hiérarchie, elle se répète. C'est que il y a 100 ans, si on était mal payé, si on avait des difficultés au chômage, on se plaignait des employeurs, on se plaignait de ceux qui sont en haut. Aujourd'hui, malheureusement, si on a un problème, c'est la faute à ceux qui sont encore pires que nous. Donc, et le Luxembourg n'est pas une île et il n'est pas isolé de ce phénomène.
Pour autant, le vote d'extrême droite n'existe pas ou très peu au Luxembourg.
Non, l'actuel président de la Commission européenne et l'ex-premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker disait il y a quelques années que l'extrême droite à Luxembourg n'a pas de succès tant qu'il n'y a pas un leader charismatique. Mais les questions sont là. Et Luxembourg a fait l'année dernière un référendum sur le droit de vote aux élections législatives, où l'ASTI a été très active aussi pour dire oui. Donc un pays où moins de la moitié de la population décide pour tout le reste n'est pas un pays qui soit démocratiquement sain à nos yeux. Et 80% des Luxembourgeois ont voté contre. On voit là que même si on aime bien dire qu'on est un pays très ouvert, si on touche à ce qu'on pense être quelque chose qui nous est exclusif, les gens ont ce genre de réaction.
Sergio Ferreira, qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui relie les travailleurs luxembourgeois et les travailleurs immigrés? Qu'est-ce qui fait une identité commune?
Je ne sais pas s'il y a une identité commune. Par moquerie, j'aurais tendance à vous répondre en chantant « Money makes the world go round ». Mais c'est pas que le pognon qui lie les personnes à Luxembourg. Ça, c'est éventuellement une vision trop cynique de la chose. Il n'y a pas une identité unique, et je crois que c'est ça qui fait l'identité de Luxembourg. C'est cette diversité. La diversité, tout d'abord, linguistique. Le pays, même sans étrangers, a trois langues. Une diversité aussi géographique. On va au nord du pays, au sud, on voit des paysages complètement différents. Il nous semble qu'on a parcouru la France d'en bas, mais non, on a parcouru au maximum 80 kilomètres. Il y a une diversité culturelle aussi, donc cette influence historique de la culture germane ou de la culture latine et francophone davantage. Et il y a une diversité de plus en plus démographique aussi. Et donc je crois que si on peut définir l'identité luxembourgeoise, c'est cette diversité. Mais il faut dire aussi, tant que les choses vont pas trop mal. Tant que les choses ne vont pas trop mal au niveau économique, il n'y aura pas certainement des gros problèmes. Mais ne soit-ce qu'un petit problème, c'est déjà un problème.
Vous imaginez-vous, François Bauche, que ça puisse se passer mal un jour, que ce modèle de multiculturalisme puisse finir par rompre ?
Ça peut arriver parce que les Luxembourgeois, Luxembourg n'est pas une île, c'est vraiment, on est des humains. Et effectivement, c'est vrai, actuellement le modèle fonctionne pas mal parce que le modèle économique et social aussi derrière fonctionne bien. Mais il faut quand même aussi voir que même si, par exemple, le référendum qu'on a organisé il y a presque un an et demi...
Sur les élections locales, le droit de vote.
Non, ça c'était sur l'élection nationale, hein, parce que ça c'était la grande... Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le représentant de l'ASTI. C'était quand même une première en Europe qu'un gouvernement organise un référendum pour permettre aux non-luxembourgeois d'avoir accès au droit de vote national. Hein, c'est-à-dire... Bon, alors là, ça a mal tourné. Il y a 80% des gens des Luxembourgeois qui ont voté contre.
Mais oui, ce que disait Sergio Ferreira.
Oui, je crois que, mais c'est très complexe parce que je crois que ce vote a exprimé aussi une certaine crainte de la population luxembourgeoise que je peux comprendre, qui est un peu la crainte générale par rapport à la globalisation, par rapport à une situation plus insécure un peu qui existe en général en Europe. En fait, la population a clairement exprimé cette crainte, mais d'un autre côté, il faut voir que maintenant, on élargit la double nationalité, on réduit le temps pour avoir accès à la double nationalité, on introduit le droit du sol au Luxembourg. Hein. C'est-à-dire, à un moment où tous nos pays voisins discutent, comme en France, de la déchéance de la nationalité, dans certains cas, nous, on décide de l'élargir. C'est-à-dire, là, et c'est très peu contesté, parce qu'à la fin, vous allez avoir un vote au Parlement presque à majorité absolue, hein, c'est-à-dire à l'unanimité presque. Hein. C'est-à-dire, là, on voit que si on fait les efforts, comme dans le passé, je crois que le modèle luxembourgeois peut très bien réussir.
Et que votre devise « Mir velle bleive mir sinn », je le dis bien, « Nous voulons rester ce que nous sommes », ça peut aussi vouloir dire « Rester aussi ouvert que ce
c'est
que
très
nous
bien.
Sommes ».
C'est l'ouverture qui est l'identité du Luxembourg.
Merci beaucoup François Bauche d'avoir été avec nous ce soir, ministre des Transports, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable au Luxembourg. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez télécharger cette émission à la page de Sur la Route sur le site de France Culture. Téléchargez aussi les émissions que nous avons faites sur d'autres frontières, la frontière franco-belge, la frontière franco-allemande ou encore la frontière franco-italienne dans des épisodes précédents. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Lorraine Nord pour son accueil. À la technique, c'était Pierre-Yves Renoux. La semaine prochaine, nous serons sur la route du canal de Bourgogne, portrait d'éclusier le long d'un cours d'eau qui ne sert plus au transport de marchandises depuis longtemps et qui voit peu à peu diminuer la navigation de plaisance. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.